coup sûr dans le mid, présenté par Benny et compagnie. La collection complètement cornichon est arrivée. Découvrez Burger, le poulet bol et les bouchées de poulet cornichon. Ce serait cornichon de ne pas y goûter. Coup sûr.
Il n'est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation. À ce qu'on m'a dit.
En vacances.
Radio. X.
Vous êtes à l'écoute de Couture dans le mid, pas de Pierre Couture, qui, je pense, sera de retour la semaine prochaine ou l'autre d'après. Là. C'est imminent.
La semaine prochaine, oui, on va le croiser.
Nice. Regarde, étant donné que Pierre parle d'économie aux deux mots, m'a m'essayer sur quelque chose d'économique. Quand vous faites la file à 1h15 pour mettre du gaz au Costco, là, c'est pas payant. Même non. Si vous, ouais, mettons, vous sauvez 4 piastres sur votre plein, là, mais vous avez fait 1h30 d'attente, c'est pas payant.
Attends-tu vraiment des 1h15, toi? Est-ce que tu vas encore dans les stations-service Costco de ce monde?
Quand je passe par là, puis qu'il n'y a pas trop d'attente. Mais l'autre jour, tu sais, quand le gaz a monté là, de façon drastique, j'ai voulu aller faire la file. J'ai vu la file qui faisait celui et le Costco sur, voyons, comment ça s'appelle? Bouvier, là, dans ce coin-là. Là.
Ouais.
Et oublie ça. Costco Le Bourgneuf, oui.
Mm-hmm.
Ça valait pas la peine. Je me suis dit, je peux pas attendre 35 minutes pour sauver 6 piastres sur mon plein. Là. Ouais, ça peut pas.
Et là, c'est 10 cents de moins le litre quand même là, sur le nouveau site, le metdugaz.com, qui compétitionne GasBody carrément. Celui-là, il est en bon français québécois. Metdugaz!
Metdugaz, c'est-tu 60... gaz bleu? C'est-tu notre version panier bleu?
Je pense que c'est la version panier bleu. Je suis pas certaine. C'est la plateforme, je pense, que le gouvernement a développée. Pas sûr de ma shot. Mais
okay.
Ça varie actuellement entre 1,84 et 1,89 dans la région. Fait qu'un 1,78, 1,79 au Costco. Il y a quand même un deal à faire.
Oui, ça vaut-tu la peine d'attendre tant que ça?
Ben moi, j'attends jamais longtemps.
Non?
Le secret le mieux gardé, c'est d'aller à Saint-Romuald, mais il faut passer par là. Ça dépend des heures que tu y vas. Un samedi matin, t'es malade, mais après ça, le reste en fin de journée, il n'y a personne.
Ah ouais?
Okay. Ben, moi, en tout cas, je suis chanceuse de même. Fait que je vais aller m'acheter un gratuit tantôt. Parce que quand je vais au Costco, j'attends rarement plus que 5 minutes.
Quelqu'un nous dit attendre au Costco, c'est pas juste pour l'économie, c'est aussi un stationnement, un statement au crosseur. Toi, tu sauves 6 piastres, mais les stations qui abusent perdent bien plus si on fait tous l'effort. J'aime cette vision-là. Ah, ça, c'est très, très bon.
Mais va me dire que tu fais ça pour la justice populaire.
Moi, j'en doute, là.
Oui, tu fais ça pour que ça te coûte moins cher. Puis moi, quand je suis pas capable de mettre ça sur ma carte débit, parce que j'ai pas la CIBC Costco, justement, le Pierre serait là, il me dirait non, mais t'aurais des remises? T'aurais 3% sur le gaz, 2% sur la bouffe, non, ou l'inverse. Ben, c'est ça. Moi, quand je mets pas ça sur ma débit, je veux mettre ça sur ma Visa, ben il faut que j'aille ailleurs. J'ai pas le choix.
Yes. Hey, premier invité de ce show, je suis très content de lui parler parce que, pour vrai, l'histoire de laquelle on va parler, là, avec les détails qu'on va évoquer, puis surtout, c'est une histoire qui passe un peu sous le radar de nos médias ici pour une raison que j'ignore, parce que quand... une famille se décime au Colorado dans des circonstances les plus tragiques possibles. Ça, on nous en parle, puis des affaires de même. L'histoire que je vais vous parler avec mon prochain invité, elle est difficile à croire, tellement que c'est tiré par les cheveux, tellement la période est prolongée dans le temps, tellement c'est malade. Mais tout ça est bien réel. C'est le scandale des gangs de Pakistanais qui ont, au Royaume-Uni, en Angleterre, procédé à de la prostitution, un réseau de prostitution pendant des années et des années. Puis pour en parler, on va aller rejoindre un gars avec qui j'aime bien parler le soir une fois de temps en temps. C'est Alexandre Cormier-Denis de nomos-tv.com. Salut Alexandre!
Bonjour, merci de me recevoir. Bon été à tous!
T'es en forme?
Oui, très en forme, très en forme.
Excellent. Et avant qu'on parle de notre sujet principal, j'ai vu sur ta page hier une petite invitation à une game de pétanque entre amis.
Oui, ben c'est ça. Cet été, vous savez, l'extrême gauche se mobilise, des gens qui s'autonomment antifascistes, mais qui en fait sont juste des groupuscules d'extrême gauche appelant à des actions illégales. Là. C'est des gens qui font de l'intimidation, c'est des gens qui font des méfaits, c'est des gens qui font de la diffamation. C'est des gens qui vont même jusqu'à faire des actes criminels assez graves. Hein. Il y a des sites d'extrême gauche comme Montréal contre Info où ils revendiquent littéralement du sabotage de matériel, par exemple des camions, des épiceries. Hein. Ouais. Récemment, ils ont fait des actions en attaquant des en crevant les pneus puis en finalement en vandalisant des camions de métro, et également ils volent de la nourriture. Hein. Il y a des groupuscules d'extrême gauche, les Robins des Bois, ouais. Ils rentrent pas seulement dans des grandes épiceries, mais également dans des petites boulangeries. Il y a une petite boulangerie de Montréal, Mamie Clafoutis, qui a été visée par ces gens-là, et ils piquent littéralement la nourriture, revendiquée politiquement. Là, c'est vraiment de l'extrême gauche anticapitaliste. Ces gens-là œuvrent dans une sorte d'impunité un peu politique. Alors, évidemment, il y a des enquêtes criminelles par la police, mais on n'entend pas beaucoup nos politiciens dénoncer ça. Hein. On se rappelle qu'il y a eu tout un tintamarre pour une simple banderole à Shawinigan.
D'un slogan bidon et anodin, puis aussi, tout récemment, là, une fausse main en robeur laissée devant une mosquée, puis là, on s'entre-déchire. Là.
Oui, ben c'est ça. Il y a une disproportion entre, comment je dirais, ce qui est perçu comme étant des actions qui pourraient être associées à la droite, alors que ce n'est pas nécessairement des actions criminelles. Et d'autre part, quand la gauche ou l'extrême-gauche, elle, fait des actions réellement criminelles, hein, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la loi, qu'ils vont à l'encontre du code criminel, on sifflote, on regarde dans l'air, on regarde ailleurs, parce qu'il y a une impunité de l'extrême-gauche au Québec et au Canada depuis très longtemps. Et je pense qu'il faut exposer ces gens-là parce qu'ils sont dans une phase de radicalisation.
L'administration américaine essaie de les exposer et de les mettre, du moins d'un point de vue international. Là, je ne sais pas si le Canada, en fait, j'en doute que le Canada va suivre. Là, ou peut-être qu'ils n'auront pas le choix de suivre, on verra bien. Là, mais il y a quand même une volonté de la part de l'administration américaine de criminaliser ces gens-là. Là.
Oui, ben, tout à fait. De s'attaquer à leur financement, notamment, parce qu'il y a du financement aussi international pour certains groupes. Donc oui, tout à fait, ça c'est fait. Ici, évidemment, ben, comme le Canada est un peu dans la même architecture, on va dire, de sécurité que les États-Unis, c'est un membre de l'OTAN, c'est un membre du NORAD, c'est un membre des Five Eyes aussi, hein, la communauté de renseignement des pays anglo-saxons. Hein. Donc forcément, le Canada est aussi la volonté d'avoir accès au marché américain, à la frontière américaine. Le Canada va pas vraiment avoir le choix que de prendre ça au sérieux parce que les Américains sont en train de prendre ça au sérieux et le Canada peut pas devenir un problème sécuritaire, non seulement migratoire, mais aussi, entre guillemets, idéologique pour les États-Unis. Donc, forcément, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des pressions et il faut pas non plus se leurrer. Hein. C'est pas parce qu'il y aura un changement nécessairement de présidence d'ici 2 ans ou 2 ans et demi. Que la pression va diminuer. Hein. C'est comme les tarifs douaniers. Faut pas s'attendre à ce que les Américains reviennent au statu quo ante. Donc, le Canada est à la traîne, comme d'habitude, en fait. Là.
Ouais. Ouais, c'est ça, sur un autre domaine parmi tant d'autres. Hein. Tu parlais de violence que ces gens-là sont capables de commettre. Parle-nous de ce que tu as vécu en début d'été dans les alentours de la Saint-Jean-Baptiste, dans un quartier, puis ça, je veux absolument mettre l'accent là-dessus, dans un quartier résidentiel, familial, où la plupart des bâtisses sont faites en bois. Explique-nous ce que tu as vécu.
Oui, ben chaque été, en fait, pour la Saint-Jean-Baptiste, j'organise un événement avec mes abonnés, les abonnés de mon média. Et cette année, on l'a fait à Québec. C'est la Saint-Jean de l'amour.
Oui.
L'amour de la patrie, hein, n'est-ce pas? On est un média nationaliste de droite nationale. Donc, c'est normal de célébrer la Saint-Jean. Et il y a eu un appel à l'action de Québec antifasciste contre notre événement. Et ça s'est résulté par quoi? Par l'incendie de mon automobile.
Hey, ça n'a pas de bon
sens. Ouais, incendie criminel. Donc, c'est pas un défaut technique. Là, il y a un accélérant, c'est ce que l'SPVQ m'a dit. Il y a un accélérant qui a été utilisé.
OK.
Voilà. Ben, c'est-à-dire que l'auto a été brûlée, perte complète. Hein, et c'était pas dans un stationnement, c'était dans un autre quartier où ne se tenait pas l'événement, et c'est un quartier résidentiel, il y avait d'autres autos alentour, il y avait un arbre à côté, il y avait des vieilles maisons en bois, et c'était assez dangereux, parce qu'un incendie, on ne sait jamais comment ça peut comment ça peut évoluer. Donc, ces gens-là sont quand même un peu des zinzins. C'est plus que des zinzins, c'est un peu des dangereux.
Insouciants, ben oui.
Ben oui, et selon le Code criminel canadien, un incendie, ça peut aller jusqu'à 12-13 ans de prison. Hein. Quand même assez
criminel,
sérieux.
Hein, ouais.
Quelle a été la réaction des autorités quand tu as porté plainte, quand tu as appelé les policiers, puis tu leur as expliqué là, le contexte antifa et tout ça? Est-ce que ça a une résonance auprès des policiers? Parce que, tu sais, je connais des policiers, puis antifa, extrême-gauche, tout ça, c'est quasiment, tu lui disais que tu avais été attaqué par un Pikachu. Là. C'est un phénomène flou. Là.
Ben, je dois dire que comme j'ai deux enquêtes en cours, notamment avec ce qui s'est passé à Montréal il y a maintenant 3 mois, où il y a une quarantaine d'antifa qui, finalement, m'ont empêché d'accéder au studio.
Oui.
Donc, il y a une enquête là-dessus, et il y a une enquête sur Passé Québec. Je dois avouer que, malheureusement, le TVQ ne semble pas très, très au fait. Mmh. Et aussi, semble pas prendre ça particulièrement au sérieux.
Ben, c'est parce qu'ils se disent sûrement que...
Ça fait un peu la réaction que j'ai de ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils traitent ça un peu comme un feu de poubelle, alors que quand même, il y a quand même des éléments dans l'enquête pour qu'ils mettent de l'avant le dossier. Donc, je ne sais pas s'il y a un blocage en haut, je sais, politique, je ne sais pas si c'est du manque de volonté des policiers, mais j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à prendre ça pas très, très au sérieux, alors que pour des graffitis, par exemple, hein, il y a eu des malencontreux graffitis contre des musulmans. Ah, on a fait tout un toin-toin, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêteurs sur ce dossier-là, mais quand l'extrême-gauche fait des crimes haineux, des incendies criminels qui auraient pu avoir des conséquences quand même extrêmement graves dans les quartiers résidentiels, là, soudainement, on sifflote en l'air, et puis... Ouais, on n'a pas l'air de prendre ça particulièrement fort. Fait que, comment je dirais, ça fait partie de l'ambiance de l'impunité de l'extrême-gauche au Québec.
Aussi de prendre là à la légère des menaces, Alexandre, de se dire « Ah, ben ça va cesser, ils vont faire une fois, ils répéteront pas », mais souvent, c'est le début d'une radicalisation. Je fais un parallèle, là, la série sur Netflix, « Les pires voisins », c'est ça, là, c'est du harcèlement de rue, du bris de biens, puis la police aux États-Unis prenait pas ça au sérieux. Souvent, ça finit avec soit une balle dans le nuque ou avec autre chose qui arrive, un incident fâcheux.
C'est un beau projet, ça, Alexandre?
Non, c'est ça, tu sais, on veut pas se rendre là, mais le corps policier, on dirait, prend ça à la légère en se disant, ben c'est des menaces. Où est-ce qu'on les grade, ces menaces-là? On les prend-tu vraiment au sérieux? Ben c'est parce qu'à un moment donné, il y a des événements comme ça qui arrivent, puis ça dégénère, là.
Oui, exactement, et puis faut quand même réaliser, là, c'est-à-dire aux États-Unis, ben, évidemment, c'est le contexte américain, donc c'est pas le même contexte.
Non.
Je veux dire, il y a quand même Charlie Kirk, ils l'ont buté de l'extrême-gauche par une espèce de radicalisation. Vous savez, si vous êtes... c'est d'ailleurs même le cas pour les mouvements antifascistes au Québec. En gros, si vous êtes à droite de Québec solidaire, vous êtes un facho, quoi. Je veux dire, voilà. Le fascisme commence avec Madame Fréchette et Paul Saint-Pierre-Plamondon, hein. C'est-à-dire que dès que vous voulez...
On l'a vu avec l'ex-candidat, le fou furieux, l'ex-candidat libéral, là, qui disait que le PQ, c'était un parti de fasciste, là. Tabarouette, on...
Oui, ben voilà, mais c'est toute cette ambiance-là. Donc, il y a toute cette... Vous émettez des questions, par exemple, sur les politiques migratoires complètement décérébrées de Justin Trudeau, facho. Vous remettez en question peut-être l'industrie de la transtech qui fait la propagande, en fait, dans les écoles pour la déconstruction du genre, menant à quoi, finalement, à la banalisation du transgenrisme sur les enfants, donc quand même des mutilations génitales. Vous posez des questions là-dessus en disant, ben, quand même, est-ce qu'on peut pas avoir une sorte de recul par rapport à ce phénomène social-là sans se faire traiter de transphobe? Ben, vous êtes traité de facho. Donc, le fascisme arrive très, très vite avec ces gens-là. Ils sont pas nombreux, mais ils sont très vocaux et ils utilisent l'intimidation, ils utilisent la violence en fait pour imposer. Et moi, c'est une de mes thèses, c'est-à-dire que je pense qu'il y a d'une part le fait qu'on n'en parle pas tant que ça dans la société, c'est que il y a une espèce de gauchisme culturel ambiant dans la société québécoise. On voit, vous allez, la violence d'extrême gauche quand on est marxiste, ben c'est sympathique, hein, ouais, bon, c'est des erreurs de jeunesse.
Ils agissent au nom du bien. Ils pensent qu'ils agissent au nom du bien.
Ils sont peut-être un peu radicaux, mais dans le fond, ça va dans le bon sens. Donc, il y a une espèce de complaisance idéologique, d'une part. Et d'autre part, c'est beaucoup plus concret, les gens ont peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez la violence de ces gens-là, ben, il y a une terreur qui se met en place et le journaliste se dit « Oh, mais si je traite du sujet, peut-être que je pourrais les avoir sur le dos, peut-être que c'est moi qui pourrais me faire harceler, peut-être que c'est ma voiture qui pourrait être brûlée. » Ben oui, donc les gens sont lâches, il faut dire les choses. La classe médiatique est lâche, la classe politique l'est tout autant. Et donc, ça fait que ces gens-là agissent dans l'impunité. Et moi, je dis, ça doit cesser, c'est tout. On doit arrêter d'être terrorisé par ces gens qui revendiquent des actions criminelles. Il faut les dénoncer. On n'accepterait jamais le dixième de ces actions-là si c'était un mouvement de droite
jamais.
Qui en revendiquait. Bon, c'est ça. Donc, à un moment donné, l'impunité de l'extrême-gauche là au Québec, là, ça doit cesser. Et il va falloir, à un moment donné, se tenir debout avec une forme de colonne vertébrale. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi ils me ciblent, parce que je les dénonce. C'est pas très compliqué. Je les dénonce exact. Pour ce qu'ils sont, ils aiment pas ça. Je les traite de terroristes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent ma voiture. Et ils agissent exactement comme ce à quoi je les dénonce.
Ouais.
Donc ils donnent raison, en vérité, à tout ce que je...
Il va falloir, par exemple, sur la colonne vertébrale, j'ai l'impression que ça va prendre les Américains pour nous la poser, malheureusement. Je vois pas sur le radar Mark Carney agir dans cette direction-là, à moins que Papa Trump ait dit « Hey, couchez tapis », tu sais.
Oui, ben c'est ça. Il y a un contexte international qui joue là-dedans. Il y a la société civile aussi québécoise, là. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui doivent aussi prendre ça en compte. Mais évidemment, si les médias n'en parlent pas, les gens ne sont juste pas au courant. Donc, je veux dire, tout ça forme une espèce de cercle. C'est pas un cercle vertueux, c'est l'inverse, là. C'est le cercle de la lâcheté. Mais il faut briser ça. Il faut avoir le courage de dénoncer ces gens-là et pour que les choses changent, tout simplement, et pour que ces gens-là, en fait, soient juste traités comme ils sont, c'est-à-dire des crapules criminels, et qui passent devant la justice, c'est tout.
Parlant de crapules criminelles, la raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu suis de façon assidue ce dossier-là. Parle-nous en plaçant vraiment les bases, parce que je pense que quand tu vas donner les détails, les gens vont faire « ben voyons donc, ça doit être une espèce de théorie d'extrême droite, une conspiration ». Place les bases de ce qu'est le Packy Grooming Gang.
Oui, alors ça c'est un phénomène, donc les Grooming Gangs, hein, comment on pourrait traduire ça, c'est des réseaux de proxénétisme juvénile. Et on parle de 250 000 victimes à partir des années 50. Donc, c'est sur plusieurs décennies. Hein. 250 000 victimes, un quart de million, ça semble un chiffre complètement loufoque.
Exact.
Mais il faut comprendre que...
Parce qu'on a vécu... Excuse-moi de te couper, Alexandre, mais vécu à Québec l'opération Scorpion, qui est un réseau de prostitution juvénile qui était épouvantable, qui, heureusement... Puis là, on me dit qu'il y a probablement encore des soubresauts de ça. Il y a encore de la prostitution juvénile qui se passe à Québec, mais jamais on était près de ces chiffres-là.
Mais
c'est
non.
Ça qui frappe l'imaginaire.
Oui, exactement. Mais il faut comprendre que c'est sur des décennies, hein, 250 000, donc c'est un quart de million sur plus de 60 ans. Là. On parle quand même de plusieurs décennies, mais c'est quand même, l'ampleur de la chose. Mais c'est pas seulement l'ampleur de la chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui nous disent « Ben oui, justement, la prostitution juvénile, bon, ben il y en a ici, est-ce que c'est des réseaux de gangs de rue, des Hells Angels, que sais-je encore? » Il y a ça un peu partout. OK, c'est pas faux. Il y a deux choses qui distinguent ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein, donc, ça s'est déroulé au Royaume-Uni. C'est l'ampleur, c'est-à-dire la taille du réseau qui est titanesque. Et deuxièmement, la complicité des institutions. Parce que l'identité des criminels, c'est-à-dire des proxénètes, a joué de façon majeure dans le fait que ça n'a pas été pris au sérieux par les institutions, voire pire, les institutions ont caché et ont protégé les criminels. Pourquoi? Parce que ces réseaux étaient des réseaux de prostitution tenus par des Pakistanais.
Et pourquoi, pourquoi les protéger? Par volonté d'inclusion? Ou pourquoi est-ce qu'ils ont protégé ces gens-là?
Oui, ben par peur de stigmatiser les Pakistanais au Royaume-Uni, par idéologie multiculturaliste. On ne voulait pas stigmatiser la haine contre la communauté pakistanaise. Donc, les institutions se sont tues. Et quand on dit taire, on parle des services sociaux. C'est-à-dire, il y a des petites filles qui les dénonçaient. Les services sociaux leur disaient de ne pas aller porter plainte. Les policiers eux-mêmes, finalement, ont mis sous le tapis des révélations. Et les politiciens. Donc, c'est vraiment un système pendant des décennies où on a tué ces petites, ces filles, puis qui parfois étaient devenues des femmes, qui dénonçaient ce qu'elles avaient vécu. Et ce qui est encore plus frappant dans cette histoire-là, c'est que les jeunes filles qui faisaient partie du réseau n'étaient pas des Pakistanaises. C'était pas des petites filles pakistanaises. C'était des petites filles blanches, chrétiennes, des classes, on va dire, inférieures de la société britannique.
C'est pas un hasard, ça, hein?
Non, les réseaux pakistanais ont pris, finalement, des petites filles à l'extérieur de la communauté. Hein, donc, pas leurs enfants, pas leurs nièces, etc., pour les faire entrer dans des réseaux de prostitution. On parle de crimes extrêmement graves, là. Mm-hmm. On parle de viol, évidemment de viol, sur des mineurs, mais on parle également de torture, voire même de meurtre, OK? Et des tortures à la cigarette, voilà. Je veux pas rentrer dans les détails trop graphiques, là, mais assez horrifiant, hein, quand on lit le rapport qui est sorti en juin, en fait, par un député... un ex-député conservateur, en fait, du Reform, qui a fait son propre parti, qui s'appelle Restore Britain, Robert Lowe, qui a sorti un rapport sur ces fameux grooming gangs, c'est à glacer le sang. C'est-à-dire, non seulement qui est sorti, c'est-à-dire les actes criminels, mais la complicité des institutions pour masquer, finalement, ce scandale-là, masquer les crimes de ces gens-là, au nom de la tolérance et du vivre ensemble.
Quelle est la réaction en ce moment? Quelle est la réaction au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a une révolte par rapport à ça? Puis en même temps, je veux dire, c'est prendre le monde des caves, faire semblant que depuis 60 ans, on l'apprend là. C'est sûr que même s'il y avait des autorités, le commun des mortels devait se douter de quelque chose. Il devait y avoir des gens qui savaient un peu, là.
Oui, oui, tout à fait. Bien, c'était sorti dans des médias, mais il y a des activistes, notamment Tommy Robinson, qui était sorti dans les médias, qui avait finalement, en dénonçant ce qui s'était s'était produit, s'est même retrouvé accusé parce qu'il avait violé un ordre de la cour de non-publication. Donc les gens qui étaient, entre guillemets, des lanceurs d'alerte, ont été criminalisés par l'État britannique. C'est allé extrêmement loin, cette histoire-là. C'est-à-dire que même les gens, c'est-à-dire où on se doutait qu'il y avait un scandale, mais on ne connaissait pas l'ampleur du scandale parce que ça avait été étouffé, les gens qui voulaient pousser, qui révélaient les informations, étaient criminalisés par l'État britannique. Et si, il y a quelques semaines de ça, il y a eu des immenses manifestations au Royaume-Uni contre l'immigration massive et contre l'islamisation de la société britannique, c'est pas pour rien. C'est justement parce que l'État britannique a masqué, a caché cet incroyable scandale des grooming gangs pakistanais.
C'est pas relayé nulle part.
Pardon?
C'est pas relayé nulle part ici au Québec. Moi, j'ai pas vu ça passer dans les médias, là, zéro. Là.
Ah, ben, je pense que ça a été relayé un peu par Radio-Canada et peut-être la presse, mais évidemment, sous le titre « Manifestation d'extrême droite » et on n'explique pas le contexte, etc. Ouais. Moi, j'ai vu des titres passer, mais c'est toujours présenté de manière négative et c'est toujours décontextualisé, parce qu'on peut pas comprendre pourquoi les Britanniques sont en colère. Bon. Et d'ailleurs, dans le rapport qui est sorti, qui est un rapport donc du Parlement britannique, là, c'est la chose très officielle, on dit qu'une des raisons de la sélection des petites filles, c'est pour des raisons raciales, parce qu'elles ne sont pas pakistanaises, elles sont blanches, et pour des raisons religieuses. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'elles soient non musulmanes a été finalement fait en sorte qu'elles ont été sélectionnées parce que vues comme impures. Hein, en gros, des chrétiennes, donc non, ou chrétiennes sécularisées ou pas, mais des non-musulmanes, on va dire, vues comme un peu de la chair.
Il peut y avoir un racisme anti-blanc comme ça, à ce niveau-là, c'est hallucinant, mais que oui. L'État ait fermé les yeux là-dessus, c'est encore plus hallucinant.
Et l'achat de silence.
Au nom de la tolérance. Est-ce que c'est ce qui a eu la tête de Keir Starmer au courant des derniers mois, ou ça n'a même pas de lien, ça a même pas de lien avec ça?
Ben oui, ça s'inscrit là-dedans. Là. C'est-à-dire que parce que le parti travailliste auquel il appartient a été le plus actif pour étouffer le scandale. Pourquoi? Parce que ce sont ses électeurs. Mm-hmm. La communauté pakistanaise vote pour les travaillistes. C'est en gros là l'équivalent, si on veut, canadien du Parti libéral, là, du Parti libéral du Canada, en quelque sorte. Mm-hmm. C'est en gros le parti pour lequel votent les immigrés en grande partie. Donc, ce sont des gens qui ont intérêt à protéger, entre guillemets, leur communauté. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est les gens qui ont été les plus actifs au niveau local, parce que il faut comprendre que ce réseau de prostitution, c'est pas juste à Londres ou dans deux, trois endroits. C'est partout, partout au Royaume-Uni, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles et même en Écosse. Donc, ça a été partout sur le territoire et c'est toujours le même phénomène. Des hommes pakistanais qui ciblent des petites filles blanches de milieux prolétaires et qui les rendent dans les réseaux de prostitution. On parle de plusieurs... écoutez, il faut comprendre ce que c'est. Là. On parle de filles donc mineures, des mineurs, violées plusieurs fois par jour, parfois en groupe. Et elles allaient dénoncer ce qu'elles vivaient à la police. Et il y a des cas où la police les a ramenées chez les prostituées.
Incroyable.
Faut voir l'ampleur de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Et je veux juste dire, pour les gens qui se pèteraient les bretelles de vertu en pensant que ça n'arrivera jamais ici, n'en soyez pas si assurés. Parce qu'avec le multiculturalisme d'État canadien, où on nous muselle dès qu'on dit que c'est pas normal que le petit Kevin puisse pas porter une casquette en classe, tandis que M. Multani, fondamentalistique, lui, il a le droit, selon la Cour suprême, de porter son kirpan en classe. Okay? Le multiculturalisme de l'État canadien fait en sorte qu'on est très susceptible de vivre ce genre de choses, soit maintenant, et on le sait pas, soit dans les années à venir.
Okay?
Donc, il va falloir être extrêmement soucieux de ça, et on sait très bien que les jugements qui commencent à sortir par les juges militants d'extrême-gauche, l'extrême-gauche mentale, là, si on veut, c'est pas des gens anticapitalistes, mais ils sont dans la repentance blanche et dans l'antiracisme pathologique, ce sont des gens qui donnent des peines réduites pour des criminels qui sont racisés. Je rappelle qu'on a des jugements, par exemple, au Canada, où on a baissé la peine d'un proxénète...
À cause de son bagage, ben oui.
Oui, d'origine haïtienne, en disant, ben ça fait partie de la culture haïtienne. Alors, premièrement, c'est pas très, pas très sympathique pour la culture haïtienne, parce que c'est une culture de proxénète. Je ne suis pas sûr que si j'étais haïtien, j'aimerais particulièrement ce jugement-là.
Moi non plus.
Évidemment, ça veut dire qu'il y a deux classes de citoyens. Mm-hmm. Ça veut dire que si vous êtes noir, ben, vous allez avoir un jugement allégé, même si vous faites le même crime qu'un homme blanc. C'est scandaleux. Eh bien, le Canada est à fond là-dedans. Donc, on suit la même pente, immigration massive, tolérance pathologique, antiracisme devenu fou. On suit la même pente que le Royaume-Uni, et donc on n'est absolument pas à l'abri de ce genre de scandale-là qui pourrait émerger, qui ferait sortir mes documents dans 10, 5, 10, 20 ans, etc.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je crois que oui, d'un point de vue des institutions, je suis bien d'accord, mais je pense que c'est le genre d'affaire qui peut se produire quand tu as une espèce d'endormissement populationnel aussi, quand les gens sont comme « ben c'est comme ça », tu sais. Et je pense qu'on est très, très mal placé pour prendre de haut le Royaume-Uni de quelconque façon.
Ben tout à fait. Et vous savez, bon, il y a des gens qui nous disent que le Québec est en espèce de déclin absolu et qu'on s'enfonce. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est pas faux, mais c'est vrai de tout l'Occident.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un effondrement généralisé. On sent que, finalement, il y a une perte de volonté collective de vivre. Hein, il y a une fatigue collective de vivre. On est pris d'assaut par des idéologies radicales, soit d'extrême-gauche, soit l'islam radical, et il n'y a pas beaucoup d'anticorps, il n'y a pas beaucoup de gens qui se défendent. Donc, tout ça est vrai à l'échelle occidentale. Hein. Regardez la France, regardez le Royaume-Uni, regardez l'Allemagne, regardez l'Espagne, etc. Donc, tout le monde s'enfonce un peu en même temps. Le Québec fait partie de cette mouvance-là, on va dire, de déclin. Sauf que, ce que je veux dire, c'est que je trouve que particulièrement au Québec et au Canada, il y a une espèce d'autosatisfaction et d'aveuglement particulièrement poussé.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on s'auto-congratule d'avoir des porteurs de vertus morales hein, face à ces méchants Américains redneck, et que finalement, on pallie notre espèce de faiblesse, hein, la faiblesse du Canada, la faiblesse du Québec, par une espèce de surcroît de vertus morales. On se gargarise finalement de notre propre bonté, parce qu'en vérité, on est faible. Donc, c'est une stratégie de compensation.
Ouais.
Parce que le Canada est un État insignifiant, parce que le Québec aussi, par la force des choses, eh bien, au lieu de prendre la pleine mesure de notre déclin, on s'auto-congratule en applaudissant le bon banquier venu de Londres qui s'en met plein les poches avec ses investissements aux États-Unis, va quitter sa fonction en faisant fait des millions. Et nous, les Canadiens, cocus contents, vont être bien satisfaits de s'être fait baiser par la petite caste d'élite de Toronto et de Montréal, tout en étant finalement dans une sorte de signalement de vertu.
Au moins, et... Alexandre, on pourra se dire qu'on n'est pas américain.
Ben, c'est ça. On n'est pas américain, mais on est en train de devenir le tiers-monde. On est en train de se soumettre au pire lubie socialiste. Le pays s'en fond. Et à terme, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec et pour le Canada? C'est que les éléments les plus lucides de la société vont pas vouloir rester. Donc, à terme, il y aura une perte de l'élite. Il y aura une perte des gens les plus conscients à terme. Là, je vous dis pas dans les trois prochains mois. Mais si une société continue dans cette spirale-là, elle va juste s'enfoncer dans l'insignifiance, dans l'insécurité, parce que c'est ça là qui s'en vient là. Mm-hmm. Okay, c'est l'insécurité, parce que les policiers sont brimés par la justice de pouvoir faire leur travail, parce qu'on leur dit « oui, il ne faut pas faire de profilage, finalement de profilage de criminels, qu'on appelle profilage racial ». Donc en vérité, ils vont être eux-mêmes restreints dans leur champ d'activité. Et à terme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être le règne du grand n'importe quoi, de la criminalité, au nom de l'antiracisme, exactement ce qu'est en train de connaître l'Europe de l'Ouest. Exactement ce que connaît la France, exactement ce que connaît le Royaume-Uni, l'Espagne dans une moindre mesure, l'Allemagne également, la Belgique qui est dans un état épouvantable, le oui. Québec et le Canada suivent la même pente. Donc il faut, à un moment donné, il faut constater ce qui se passe ailleurs, okay, parce que l'Europe est très avancée dans l'immigration de remplacement et l'islamisation. Il faut voir ce qui se passe là-bas.
Suffit de croiser un Français deux minutes pour qu'il nous dise hey, « Ne répétez pas les erreurs de la France.
Ouais, » hey,
Alexandre, un gros merci d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser. C'est toujours un plaisir de te jaser une fois de temps en temps. J'invite les auditeurs qui seraient intéressés à avoir davantage de Alexandre Cormier-Denis carrément s'abonner à nomos-tv.com.
Super, ben merci et bon été à vous.
Et hey, toi aussi. Salut Alexandre.
Bye.
Bye bye. C'est Alexandre Cormier-Denis de nomos-tv.com.
Hey, à la lueur, vraiment complètement dégueulasse cette histoire.
C'est fou, hein? C'est fou, mais surtout le peu d'informations qu'on a par rapport à ça.
Ah, ben c'est parce qu'il y a des langues qui ont tout intérêt à avoir le silence toujours acheté. Je fais un parallèle, je sors un petit peu de nulle part avec ça, mais tu sais, l'histoire de Maddie McCann, la petite fille qui a disparu au Portugal à l'âge de 3 ans, c'est une Britannique à la base, c'est à se poser la question, parce que là, ils ont dans la ligne de mire, on parle encore de ça en fin de semaine, un suspect principal dans l'affaire, ça va faire bientôt 20 ans, mais on peut pas regarder de ce côté-là, peut-être dire, est-ce que c'est une victime collatérale de ce fameux réseau-là également, c'est possible, là, elle est disparue. Ça fait une vingtaine d'années, on n'a aucune piste à savoir où elle est rendue. Et pendant que ses parents soupaient au Portugal dans un restaurant, elle a complètement, elle s'est volatilisée de la chambre d'hôtel.
Ah, puis tu sais, là, on parle d'un groupe qui opérait au Royaume-Uni, mais dans les derniers mois, il y a eu un démantèlement. Ben oui, il y a eu un démantèlement d'une cellule de mémoire en Roumanie. Et je me souviens, les articles du temps nous parlaient de chemin, justement, là, de trafic humain. Un trafic humain qui est encore bien actif en 2026.
Oh, ça existe.
Ça existe. Puis en Europe, là aujourd'hui, on parlait du Royaume-Uni, mais ce dont on vient de vous parler, il y a des tentacules à grandeur de l'Europe. Là. C'est épouvantable.
L'enfer.
C'est épouvantable. All right, hey, on fait une courte pause. Le Spacecast est avec elle. Pas en tout.
Spacecast.
Non, c'est pas Spacecast.
Le Space Mid.
Ouais, Couture dans le Mid qui est avec vous jusqu'à midi. Aïe, aïe.
Couture dans le Mid. Radio. X. Ouellette.
En direct